cours de critique par le père Philippe Saint-Jotard le 25 mai 1988.
On regardera ça pour la goutte de lait. Si on fait une goutte de lait, je sais pas. Non, on fait pas. Parce que c'est des questions... Autant que possible, poser les questions par rapport au cours. Je dis ça parce que ça fait trop divers. Mais si la question par rapport les rapports entre âme, corps, esprit et nous, je veux bien... Mais au fond, on est dans la recherche de la vérité. Alors, autant que possible, c'est très bien de poser vos questions. Mais, alors c'est pour ça qu'il ne faudrait pas se les poser toujours par rapport à celui qui organise. Je dis ça, c'est pour que ceux qui viennent au cours savent, en cours de critique. Alors, quand il y aura une goutte de lait, ou bien on verra quel autre cours. C'est pour vous montrer que je m'intéresse à vos questions, je ne les néglige pas, mais quand je n'y réponds pas tout de suite, ça prouve que c'est pour un autre cours. Et quelquefois, j'oublie à l'autre cours, parce que le petit papier n'est plus là. Il faudrait les laisser là, comme ça. Il ne faut pas y toucher aussi. Alors, on était dans la recherche de la vérité. La vérité, au niveau spéculatif, nous l'avons vue. C'est toujours celle-là qui commande tout. Même si génétiquement, elle n'est pas première. C'est bien évident. On met du temps à découvrir ce que c'est que la définition que saint Thomas donne de la vérité, adequatio intellectus ad rem. Ça ne se fait pas au berceau. Et des quantités de philosophes ne le découvrent pas. Parce qu'il faut une philosophie réaliste impliquant le jugement d'existence pour arriver à découvrir adéquatio intellectus ad rem. Il faut du temps. Mais au plan critique, puisque la critique vient après tout, après toute la recherche, la critique présuppose la recherche. J'ai dit au plan critique, la vérité fondamentale sur lequel reposent toutes les autres recherches de vérité, adequatio intellectus ad rem. Ça, c'est vrai. C'est au plan métaphysique, philosophie première. Immédiatement après, on voit la vérité des principes. Et on voit que la vérité des principes, c'est déjà très différent. Parce que la réalité n'est pas un principe. Mais le principe est dans la réalité. Le principe n'explicite pas le point de vue de l'exister. Mais le principe implique en acte l'exister. C'est ça qu'il faut comprendre. De sorte que la vérité d'un principe se justifie, j'allais dire, par lui-même, puisqu'il est évident. Vous ne cherchez pas à justifier l'évidence. C'est ça qui est terrible. Vous le voyez ou vous ne le voyez pas. Mais ce que vous pouvez montrer, c'est que la vérité d'un principe peut se justifier négativement. Si vous le rejetez, toutes les conséquences. Et vous pouvez montrer que radicalement, la vérité d'un principe revient à la vérité fondamentale, adequatio intellectus ad rem. Vous voyez bien ça, hein? Mais c'est complexe, hein? Trois aspects. Un principe, c'est évident. Quand vous dites la substance, c'est le principe, c'est la cause, selon la forme, cause propre, selon la forme de ce qui est en tant qu'il est. C'est évident. Pour celui qui l'a découvert, pour celui qui ne l'a pas découvert, c'est pas évident. Alors, vous dites, comment vous l'avez découvert? Par l'induction. Mais ce n'est pas l'induction qui justifie le principe. L'induction conduit au principe. Donc vous voyez comment vous êtes arrivé au principe. Mais ne dites pas que l'induction justifie le principe. C'est pas vrai. L'induction est la voie d'accès. Oui, le devenir ne justifie pas l'être. L'induction, c'est le devenir de l'intelligence. Et donc, ne justifie pas la saisie du principe propre. Mais, vous voyez comment vous y arrivez. Et vous pouvez montrer par voie négative que si vous refusez ce principe, les catégories ne se comprennent plus. Catastrophe. Il n'y a plus aucune attribution qui peut se justifier. Toute la logique repose sur la saisie du principe propre, la substance. Ça, vous pouvez le montrer. Justification négative. Si vous refusez la substance comme principe selon la forme de ce qui est en tant qu'il est. Puis vous pouvez montrer encore, mais il y a la preuve négative. Et vous pouvez montrer encore, si vous voulez, en dernier lieu, comment ce principe que vous saisissez immédiatement se ramène à la vérité fondamentale, adéquatio intellectus ad rem. Donc, trois justifications, non pas trois justifications, trois moments de réflexion critique. Est-ce que vous voyez bien ça? Moi, je voudrais que vous voyez ça parfaitement, parce que c'est très important. Vous aurez dans votre vie des psychanalystes, des psychologues qui vous diront la métaphysique, je n'y comprends rien. Vous affirmez des principes, mais c'est a priori. Vous leur direz non, c'est pas a priori. Il faut que vous puissiez le montrer. Alors réfléchissez bien là-dessus. Troisième moment. À partir des principes, on affirme des conclusions. Quel est le jugement scientifique, métaphysique? Ce qui est en tant qu'il est, est un. L'unité est la propriété de ce qui est. Vous voyez? Comprenez bien, je suis dans l'ordre spéculatif de la philosophie première. Première affirmation, jugement d'existence, ceci est vérité de ce jugement d'existence. Deuxième affirmation, jugement qui porte sur les principes propres. Il n'y en a pas des quantités. Il y en a deux. Substance, acte. Et ceci, au niveau métaphysique, au niveau philosophie du vivant, au niveau physique. Donc vous avez en réalité deux principes métaphysiques. Philosophie du vivant, un principe. Philosophie de la nature, un principe. Qui se dédouble. Ça ne fait pas beaucoup de principes, vous voyez. Niveau philosophie, vous avez quoi? Vous avez quatre principes de philosophie spéculative. Oui. Ah, c'est autre chose. On va voir après. Je parle ici au point de vue spéculatif, connaissance spéculative. Alors évidemment, quand vous saisissez la nature, principe propre de ce qui est mu en tant qu'il est mu, vous l'avez au niveau de la causalité efficiente, au niveau de la cause formelle, au niveau de la cause finale, au niveau de la cause matérielle. Et la même chose pour l'âme. Oui, ça se dédouble. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Vous avez donc substance et acte, âme, nature. Quatre principes propres. Et en critique, je vais énumérer après, mais je le vois tout de suite maintenant, parce qu'en réalité, ce sera un chapitre particulier. Quels sont les principes propres de la philosophie? Ce sera un principe particulier. Ce serait plus loin qu'on le verrait. Mais je le vois tout de suite maintenant, au point de vue de la vérité. Vous voyez? Quatre. Pas plus. Bon. Troisième affirmation. Jugement qui porte sur la conclusion. La conclusion scientifique. Donc, il implique une déduction, il implique une démonstration. Déductive. Là, ça porte sur votre conclusion. Quelle est la conclusion propre en métaphysique? Tout ce qui est en tant qu'il est un. Quelle est la vérité de cette conclusion? Adéquatio de la conclusion à ce qui mesure cette conclusion. Qu'est-ce qui mesure cette conclusion? Les principes propres. La vérité d'une conclusion dépend de la vérité des principes. Et la vérité des principes dépend fondamentalement du jugement d'existence. Fondamentalement. Proprement de la saisie direct des principes. Donc, auto-justification. Et négativement de tout ce qui est impliqué dans cette affirmation. Ça, il faut bien voir ça, hein? Très, très important. Oui. Non, l'acte. L'être en acte. Je n'ai pas encore parlé de Dieu. On va le voir ensuite. Je n'ai pas encore parlé de Dieu. Donc, c'est l'être en acte. L'être en acte est principe propre selon la fin. Tandis que la substance, c'est selon la forme. Donc, il y a deux principes irréductibles. La substance et l'acte. Ce que n'ont pas vu des quantités de thomistes. Hein, j'insiste. Ce que Aristote a saisi, il dit textuellement que l'acte, l'être en acte, est télos. Il le dit. Et des quantités de thomistes, regardez le petit livre du père Gardel. Vous savez, quand il donne la métaphysique de saint Thomas, et regardez ce qu'il dit. Pourtant, le père Gardel, c'est un bon thomiste. Ça tient la route. Il ne va pas trop dans le fossé. Mais vous regardez, le seul principe qui est émis, c'est la substance. Et l'être en acte, non. Il y a la division de l'être essence et existence. En acte et en puissance. Ce n'est pas saisi comme un principe propre. Il y a deux principes en métaphysique, il n'y en a pas 36. Donc, au niveau critique, il y a la justification, il y a la vérité du principe du jugement d'existence, la vérité du jugement propre sur les principes propres, substance et accident, et la vérité de la conclusion. Alors, la vérité de la conclusion repose sur la vérité des principes, et la vérité des principes repose sur le jugement d'existence. Mais vous avez trois modalités. Vous avez plus exactement pas trois modalités. Vous avez deux modalités de vérité et un fondamental. Est-ce que vous saisissez bien ça? Ça, c'est capital de saisir ça. La vérité première, quand saint Thomas définit la vérité adequatio intellectus ad rem, vous comprenez bien que ce n'est pas immédiatement la vérité des principes propres. C'est le jugement d'existence. Ceci est. Ceci est adéquat à la réalité. Et la réalité est mesure de ceci est. Ceci est énoncé. C'est énoncé dans le jugement d'existence. Ceci est. L'énonciation est adéquate à la réalité.
Je ne vois pas la différence entre la substance et le 1.
Et la substance est.
Et le 1. Est-ce que la substance n'est pas le 1?
Non, c'est le fondement de l'un. La substance est principe, 1 est propriété. L'un est l'acolyte. Il y a une différence entre l'acolyte et celui qui est princeps. Vous voyez, quand vous dites ceci est un, dans la réalité, c'est la même réalité, mais dans l'énonciation, ce sont deux notations différentes. Ceci est attribut de ceci. Et qu'est-ce qui fonde la nécessité de l'un par rapport au ceci? C'est la substance. C'est parce que ceci est substantiel qu'il est un. Dès que je quitte le regard substance, je dis mais ceci est très complexe. Il n'est pas un du tout. Regardez la complexité du ceci. Et comme ceci implique la substance, il est un. Et donc la vérité de la conclusion repose toujours sur la vérité des principes. Et la vérité des principes repose toujours, en dernier lieu, sur le point de vue du jugement d'existence. Oui, comme c'est pas simple, hein, la critique de la vérité. Ça, je voudrais que vous compreniez ça. Du point de vue structure de la pensée, c'est capital, pour ne pas faire de confusion. Jugement d'existence, principe propre, conclusion. Pour saisir la nécessité, oui.
Parce que dans l'exercice, en fait, on parle du jugement d'existence.
Alors, ceci est un. Je dis tout de suite, ceci est un. Mais pour que ceci est un soit une saisie nécessaire, donc scientifique, c'est pas la substance. Autrement, vous décrivez. Point de vue phénoménologique, vous passez tout de suite du jugement d'existence à la démonstration 1.
Est-ce que ce passage phénoménologique est une vérité moindre?
C'est un fait, je constate. Mais pas plus. Et à ce moment-là, je ne saisis pas la nécessité qui existe entre 1 et ceci. La nécessité, c'est la substance. Parce que la substance est indivisible. Donc si ceci est substantiel, il est 1. Mais si ceci n'est pas substantiel, il n'est pas 1. Un tas de pierres, ceci est. Vous voyez, ceci, un tas de pierres, un tas de briques. C'est un ceci. Mais ce n'est pas un ceci substantiel. Il n'a que le ceci substantiel qui est un. L'homme, en tant qu'il est substance, est un. L'homme, en tant qu'il est un composé, n'est pas un. Oui, je vois un tas de briques. Je dis, ce tas de briques existe. Vous êtes bien d'accord? Vous dites, ce tas de briques est un. Pas du tout. Il y a 100 briques. 100 briques, c'est pas un. c'est 100. Vous voyez, au plan descriptif, je dis Pierre est un. Pourquoi ? Parce que Pierre, c'est un ceci substantiel. C'est une personne, Pierre. Donc il est substance. Et parce qu'il est substance, il est un. Et son unité vient de sa substance. Pas de ses bras. Ils sont deux.
Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas la multiplicité en Pierre qui me pousse à chercher sa substance.
Ça, c'est autre chose. C'est comment je suis arrivé à dire ça. Ici, je suis en critique. Je regarde l'énonciation. Et je regarde comment cette énonciation, ceci est un. Il est un nécessairement par le point de vue de la substance. C'est une conclusion, autrement dit. C'est une propriété. Comment je suis arrivé à dire que Pierre est un ? En découvrant d'abord sa multiplicité. Tout à fait d'accord. Les catégories. Les catégories se ramènent à substance. Et substantiellement, les catégories se ramènent au principe propre de ceci est, qui est la substance, et qui est l'acte. Est-ce que vous voyez ça ? C'est l'énonciation, je suis en critique, c'est l'énonciation, ceci est un, comment ceci est-il un ? Nécessairement un. Autrement, c'est plus une conclusion scientifique. La conclusion scientifique implique la nécessité. Toute conclusion scientifique implique une démonstration. Donc une nécessité. D'où vient cette nécessité ? C'est pas le lien entre ceci et un, parce que ceci peut être multiple. Mais c'est parce que ceci est substantiel qu'il est un. Vous avez saisi ça. Oui.
Lorsqu'on fait la division de la substance, ce n'est pas l'unité qu'on recherche.
Mais non, c'est le principe. Je peux dire que la substance en tant que principe est indivisible. Donc elle est une.
Oui, mais c'est une conséquence.
C'est une conséquence, c'est évident, c'est une propriété. Oui. C'est pas l'un que je cherche. Je me sers de l'un pour découvrir la substance, mais ce n'est pas l'un que je cherche. Une fois que j'ai découvert la substance, j'ai dit que la substance est indivisible. Mais l'indivisibilité de la substance n'est pas l'un existant. C'est l'un au niveau principe. Tandis que quand j'ai dit ceci est un, c'est au niveau existentiel. Quatrième principe, du moins quatrième modalité. L'affirmation d'un jugement de sagesse. Oui, comme c'est complexe, hein, la connaissance spéculative. Quatre niveaux. Parce que la découverte de l'être premier, je pourrais dire ça, hein, avant ce jugement d'existence, il y a la découverte, on pourrait peut-être dire ça, ça serait plus simple pour vous. 4. La découverte, il est nécessaire qu'il existe un être premier qu'on appelle Dieu, que les traditions Quelle est la vérité de cette affirmation ? Et je dis bien, il est nécessaire qu'il existe un être premier que les traditions religieuses appellent Dieu. Donc, vous voyez qu'il y a deux moments de vérité, plan critique. première vérité, il est nécessaire qu'il existe un être premier. Quel est le type de cette vérité? C'est une vérité par rapport à une conclusion, logiquement parlant. C'est au terme d'une démonstration. Cette vérité dépend donc du principe. Ce n'est pas une vérité immédiate. Je n'ai pas l'évidence de l'existence de Dieu. Vous l'avez peut-être, mais pas moi. Un ontologiste, s'il était dans la salle, dirait, moi j'ai l'évidence de l'existence de Dieu. Je dirais, cher monsieur, vous avez l'évidence de l'existence de Dieu, faites attention. Vous confondez peut-être philosophie et foi. Dans ma foi, j'ai l'évidence, du moins la non-évidence, j'ai la certitude immédiate de l'existence de Dieu. Dans ma foi. Dans ma philosophie, je n'ai pas la certitude immédiate de l'évidence de Dieu, de l'existence de Dieu. Philosophiquement, je l'ai immédiatement. C'est-à-dire par l'intermédiaire d'une démonstration a posteriori. Or, la démonstration a posteriori repose sur un jugement d'existence et un principe. C'est donc une conclusion hybride, un mulet et un bœuf, ou un âne et un bœuf. Vous voyez bien, c'est une conclusion qui repose sur un jugement d'existence et un principe propre métaphysique, le principe de finalité. C'est donc une conclusion évidente comme conclusion, vraie comme conclusion, mais reposant sur deux affirmations. L'affirmation du jugement d'existence et l'affirmation d'un principe propre. Donc c'est une vérité immédiate. Pas immédiate. Donc, c'est une vérité d'un type différent que 3 et immédiatement présupposant les deux autres. Et l'autre vérité que les traditions religieuses appellent Dieu, qu'est-ce que c'est que ce genre de vérité ? Je repose sur l'opinion. Des traditions religieuses. Uniquement pour l'affirmation du non-Dieu. Pas l'exister, le non. Je repose sur les opinions. Donc, c'est philosophiquement parlant une vérité dialectique. Ce n'est plus du nécessaire. Le non n'est pas scientifique. Le non-Dieu n'est pas scientifique. Le non-Dieu repose sur les opinions des traditions religieuses. L'exister de l'être premier est scientifique, mais pas le nom de Dieu. Mais comme c'est important, ça. Et toutes les confusions qu'on a faites au plan apologétique. Et ces confusions ont amené des réactions qui sont les idéologies athées. On est très coupable là-dessus. On est responsable un peu des idéologies athées. Parce qu'on a fait la conclusion. On a fait la confusion d'une conclusion dialectique et d'une conclusion scientifique. Il y aurait moins d'athées si on avait fait la distinction. Est-ce que vous voyez bien ça? Oui.
La différence entre 4 et 3, c'est que dans 4, le jugement d'existence est directement présent dans la démonstration.
Oui, oui. Directement. l'autre, il est fondamentalement. Il est fondamentalement, il repose uniquement sur les principes propres et fondamentalement sur le jugement d'existence. Puisque les principes propres sont en fondamentalement vrais en raison du principe du jugement d'existence, mais pas immédiatement. C'est pour ça que le jugement, la vérité de la conclusion d'une démonstration a posteriori est plus immédiatement reliée au jugement d'existence. Vous voyez bien ça, hein? C'est important. 5. Jugement de sagesse. À la lumière de la simplicité de Dieu, je peux dire que en toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. La fameuse thèse thomiste. Vous voyez que je démolis la thèse pour en faire une vérité de conclusion. Une conclusion. Une conclusion d'un jugement de sagesse. En toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence. En toute créature. C'est donc un jugement de sagesse. Le jugement de sagesse, quelle est sa vérité ? Le jugement de sagesse repose sur l'affirmation de l'exister de l'être premier. C'est dans la lumière de l'être premier et de l'être premier comme créateur que repose la vérité d'un jugement de sagesse. Et le jugement d'existence. C'est sûr. Donc là encore, vous voyez, les deux critères du jugement d'existence, du jugement de sagesse, premièrement, jugement d'existence, deuxièmement, l'exister de l'être premier, troisièmement, la création. Trois critères, unis en un. Pour comprendre la vérité du jugement de sagesse en toute créature, il y a une distinction réelle entre essence et existence, ce qu'on dit une thèse thomiste, ou un autre jugement de sagesse, en toute créature, la perfection se donne toujours dans la complexité. La vérité de ce jugement présuppose l'affirmation de l'existence de l'être premier comme créateur et l'affirmation de l'existence de l'homme, de « je suis ». Et c'est complexe, la vérité d'un jugement de sagesse. Voilà les 5 niveaux de vérité. Donc, 4 modalités de vérité, en réalité 4, qui se fondent sur le premier, qui n'est pas une modalité, qui est la vérité. Dans ce qu'elle a de plus pur. Vous avez donc 5 modalités de vérité, dont une première. Il n'y en a pas d'autres. Cherchez bien, pas d'autres. Donc une fois que vous avez saisi ces 5 modalités, vous tenez le char métaphysique, hein. De Parménide. Oui, parce qu'il est parlé de la vérité toute ronde. Et la vérité toute ronde, c'est ces cinq modalités de vérité. C'est pour ça qu'elle est toute ronde, cinq. C'est pas quatre. Quatre, c'est le carré. Tandis que cinq, c'est la rondeur. La vérité. La vérité est toujours toute ronde. Elle n'est pas carrée, la vérité. Donc elle est accueillante. Et vous la prenez en tant qu'elle tourne. Vous la prenez à un moment donné. Je sais pas que vous avez compris ça. Cinq modalités. Bon. Maintenant, connaissance pratique. Hein? Connaissance pratique. Philosophie pratique. Différents étages de la philosophie pratique. Premier étage, si je ne prends pas nécessairement l'ordre critique, selon l'ordre critique, je devrais prendre, selon l'ordre critique, hein, c'est pas l'ordre que j'ai pris la dernière fois, tant pis, ça n'a pas d'importance. Selon l'ordre critique, je dirais que la connaissance pratique la plus parfaite, c'est le jugement prudentiel. Jugement prudentiel. Il faut étudier. Il faut faire de la métaphysique par obéissance au pape. Ah, mais ajoutez tout de suite ça, par obéissance au pape. Il faut faire de la métaphysique. Il faut faire de la critique pour faire de la métaphysique. Il faut étudier. C'est une nécessité, il faut. Ou, si vous aimez mieux, il est nécessaire. Vous voyez, j'aime mieux dire il faut. C'est plus impératif. C'est prudentiel. Et les jugements prudentiels portent sur l'impérium. Il y a un impérium. Il faut. Il faut d'étudier. Pour faire de la métaphysique. Quelle est la vérité de ce jugement? Bon, chaque fois que je cherche la vérité, je cherche la mesure. Adequatio intellectus ad rem. Adequatio intellectus pratique, intellectus prudentiel ad rem. Quelle est la res, mesure du jugement prudentiel? Qui? Oui. D'une façon ultime. C'est trop spéculatif. C'est très important. Je le laisse, hein. Je le note. Quelle est la mesure immédiate? Il faut étudier. Quelle est la vérité de ça? Quoi? Oui, c'est la fin. Donc, pratiquement, c'est quoi? Comment atteignez-vous la fin? C'est la fin tant qu'elle est atteinte. L'attention, l'attention. La fin, je l'atteins en tant qu'une attention. L'intention de vie touche la fin. N'est-ce pas? Tandis que il faut étudier, c'est un moyen. Je n'étudie pas pour le plaisir d'étudier. Hein. Faut bien dire ça. Donc il y a des jours où on n'y comprend rien, sans aucune espèce d'importance. Il faut étudier. Tandis que si l'étude finalisée, les jours où vous ne comprenez rien, fermez le bouquin. Tandis que si c'est un moyen, très bien. Il y a des tunnels. Il y a des tunnels, on ne voit rien. On continue. Il faut étudier. Moyen. sur place. Bon, c'est un moyen. Le moyen est vrai quand il est adéquat à la fin. Ah oui, cela saisit bien la saisie. La vérité pratique. L'adéquation du moyen à la fin. Par l'intention de vie. Mon choix, mon imperium qui présuppose un choix. La vérité du choix, c'est le moyen adéquat à la fin. La vérité de l'imperium, c'est que ce choix doit être choisi maintenant. Ah, l'imperium implique le temps. Attendez, l'imperium implique le temps. Le choix, pas nécessairement. Parce que c'est in tempore opportuno. Je sais qu'il faut faire des études. Je sais qu'il faut travailler. Mais quand? Pas le matin quand vous faites oraison. Autrement, vous prendrez votre bibliothèque, vous n'arriverez aucun. Il faut travailler. Il faut travailler tout le temps. Ah non. L'imperium, c'est le temps. Donc, il y a le choix. Adéquation du moyen vers la mesure. Et l'imperium implique le temps. Donc il y a deux vérités. Il y a une vérité par rapport au choix, il y a une vérité par rapport à l'imperium. Et ces deux vérités sont contenues dans le jugement prudentiel. Et ce n'est pas le même type de vérité. Il y a deux sortes de vérités. La vérité, je dois travailler ce moment-ci. Je dois travailler au-delà du temps.